rencontre avec nos évêques.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue, Thibaut de Tuile au micro de votre émission pour une rencontre périodique avec l'un des évêques de notre région. Nous sommes accompagnés de Monseigneur Echen. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Vous êtes évêque de Pamiers-Couserans-Mirepoix, en Ariège. Ça n'a pas changé. Heureux de vous retrouver à ce micro. Nous avons décidé pendant ce mois d'octobre, non pas d'approfondir avec vous un sujet comme ça sur plusieurs épisodes, comme on l'a fait plusieurs fois auparavant, mais de nous arrêter davantage sur l'actualité qui nous préoccupe pendant ce mois d'octobre. Donc nous allons passer au travers de la révision des lois de bioéthique, bien entendu, du mois missionnaire mondial voulu par le pape, de l'écologie, voilà tous ces sujets-là qui sont au cœur de l'actualité de l'Église en France et dans le monde. Donc merci de nous accorder ce temps et puis de nous permettre d'y réfléchir. Commençons aujourd'hui donc, puisque ce dimanche se tient la grande manifestation annoncée depuis des mois par un collectif d'associations Marchons Enfants. Selon des mots désormais célèbres de Mgr de Moulin-Beaufort, les citoyens qui sont inquiets ont le devoir de manifester. À l'heure où nous enregistrons, nous ignorons combien de personnes se rendront à Paris pour clamer leur indignation face à la révision des lois de bioéthique étudiées en ce moment à l'Assemblée. Est-ce que, Monseigneur Echen, en chair, vous avez appelé les catholiques de votre diocèse à aller manifester ?
Alors non, je n'ai pas appelé les catholiques de mon diocèse à aller manifester. Finalement, j'ai tenu cette ligne que tient d'ailleurs Monseigneur de Moulin-Beaufort. À un certain moment, il y a une retransmission un peu inexacte de ce qu'il a exprimé, mais comme le faisait le cardinal 23, selon une expression dont il a l'initiative, il disait « j'invite les catholiques à se manifester ». Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux très forts autour de ces questions de mutation de notre droit qui engendre aussi une vision de l'homme à laquelle on n'adhère pas, en particulier en lien avec notre anthropologie chrétienne. Donc il y a des enjeux et des mutations très fortes qui s'annoncent, non seulement par rapport à la procréation médicalement assistée ouverte à tous, mais aussi par rapport au projet de GPA, d'ouverture à la légalisation de la GPA. Là, il y a des mutations très fortes et nous sommes, c'est notre devoir, y compris dans un temps où on est appelé à la mission, sorte de renouveau missionnaire, on est invité à ne pas être des muets, mais à prendre notre place et notre liberté d'expression dans cet espace public pour dire ce en quoi nous croyons, mais pas ce en quoi nous croyons au sens d'une attestation de la parole de Dieu qu'on afficherait de manière péremptoire dans l'espace public, mais ce en quoi nous croyons, ancré dans nos références bibliques et évangéliques, qui nous engage dans une vision de l'homme qu'on peut partager parce qu'on la partage sur des repères rationnels. Si on se penche sur le travail très intéressant qu'a fait Mgr Dornelas avec son équipe, et en particulier ce document de réflexion qui nous a offert là au milieu du mois de septembre, eh bien on est vraiment dans une réflexion qui est proposée à tous parce qu'elle ne s'appuie pas sur des arguments bibliques, mais elle s'appuie sur des arguments de raison, sur des arguments d'humanité. Et cela peut aider certains de nos contemporains, on en connaît un certain nombre d'ailleurs, philosophes, penseurs, écologistes. On pourrait penser à José Bové, mais on pourrait penser aussi à la philosophe Madame Agazinski, épouse de Lionel Jospin, qui se disent « mais ce serait paradoxal dans notre société de s'interdire, en raison du principe de précaution, à manipuler le vivant végétal et puis accepter de manipuler le vivant humain ou d'utiliser des matériaux humains comme des matériaux de recherche ou de commerce. » Donc il y a de vraies questions et finalement j'essayais de dire à mon diocèse, nous ne pouvons pas rester indifférents face à ces évolutions. Et il revient à chacun de choisir ses modes d'action. Le dialogue avec tous nos contemporains, y compris dans des conversations de café du coin,
est un mode d'action.
Est un mode d'action.
On n'est pas obligé de prendre
la
le
rencontre
bus,
avec ces députés, sénateurs, pour dire mais est-ce que vous maîtrisez bien les enjeux de ce que vous allez voter ? Est-ce que vous êtes juste dans la discipline de parti ou est-ce que vous avez mené une réflexion en profondeur ? Donc ça, c'est un mode d'action. La prière est un mode d'action aussi. A priori, les bénédictins ou les bénédictines ne vont pas sortir de leur monastère pour aller manifester à Paris. Maintenant, dans notre société démocratique, telle qu'elle est organisée, la manifestation sur l'espace public est aussi un mode d'action qui est légitime et qui peut être utile. Donc, je n'interdis pas du tout... Je disais dans un texte que je viens de publier d'ailleurs sur notre site internet là, en m'adressant aux chrétiens, à l'ensemble de mon troupeau, je disais, il ne convient pas de mon point de vue que votre pasteur vous dise, vous devez aller manifester. Si vous le faites, vous avez ma sympathie, entre parenthèses, ou ma bénédiction. Mais si vous ne le faites pas, parce que votre engagement est d'une autre nature,
Il faut que vous engagiez
malgré tout.
Oui.
Vous l'avez aussi, ma sympathie et ma bénédiction. Donc cette ligne-là est tenue, je crois, par Mgr de Moulins-Beaufort. Mmh. Il ne nous revient pas, nous, comme évêques, pasteurs, de désigner les moyens d'action que des hommes et des femmes, citoyens et chrétiens, choisiront pour s'engager autour de ces questions très importantes.
Cette révision des lois de bioéthique est en fait un très vaste sujet. Elle contient de nombreux périmètres, de nombreux chapitres, la levée de l'anonymat, l'élargissement des tests génétiques, etc. Pourtant, on a l'impression que les catholiques concentrent leur indignation sur la lutte contre la PMA sans père ou l'hypothétique, parce qu'elle n'est pas inscrite, GPA. Pourquoi ce rétrécissement un petit peu du débat?
Alors peut-être parce que c'est relativement plus simple pour des gens qui ne maîtrisent pas toute la réflexion bioéthique, en particulier sur tout ce qui concerne le statut de l'embryon, les utilisations que peuvent faire les laboratoires ou les chercheurs d'embryons surnuméraires, tout ça c'est plus complexe pour le commun des mortels, entre guillemets, et souvent ce qui saute aux yeux le plus facilement, c'est qu'on risque de faire de la matière humaine, c'est-à-dire du corps d'une femme qui deviendrait une mère porteuse, ou de ses ovocytes, ou de ses spermatozoïdes, ou même de la question d'un enfant, finalement un objet de réponse à notre besoin, notre désir. Alors, désir qui est légitime en tant que tel. C'est vrai que quand on accompagne des hommes et des femmes qui sont confrontés dans leur couple à un problème de non-fécondité, on sent que c'est une vraie souffrance. Et même dans des couples qui sont ouverts à la fécondité, et qui peuvent accueillir des enfants, il y a ce désir d'avoir un enfant qui est en quelque sorte la consécration de l'amour humain, l'amour d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme qui est tellement fort qu'il s'exprime par une autre personne humaine qui ressemble à l'un et à l'autre. Il y a ce désir très fort, et quand ce désir ne peut pas trouver à s'exprimer, eh bien tout ce qui peut nous être proposé finalement devient pour nous un objet d'attention. Mais ensuite, tous les moyens de répondre à ce désir, légitime en tant que tel, sont-ils bons et sont-ils respectueux de la dignité humaine? Par exemple, certains le disent d'ailleurs dans les débats qu'on développe autour de cette question, que les accidents de la vie fassent qu'un enfant se retrouve sans père ou sans mère, qu'il soit orphelin de père ou de mère au sens biologique du terme, et qu'éventuellement le géniteur qui est encore vivant s'associe à une autre personne qui devient son père ou sa mère adoptive. Ça, les accidents de la vie ont fait qu'il y a cette douleur de ne pas connaître son père, de ne pas partager une tranche de vie avec lui, mais on n'a pas choisi de priver cet enfant de son père ou de sa mère. Alors que quand on fabrique en quelque sorte un enfant avec des matériaux biologiques, on choisit de priver d'une relation d'un enfant à son père ou à sa mère biologique, ou aux deux éventuellement, ce qui sans doute, et en tout cas une partie de la communauté psychanalytique et des psychologues nous alertent, sans doute n'est pas sans conséquence sur l'équilibre personnel de chacun et sur la construction d'une jeune personnalité, d'une personnalité adulte. On voit bien d'ailleurs à travers les recherches de paternité, il m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui avaient été adoptés et de me trouver confronté à ce besoin très fort intérieur de savoir quelque chose du père ou de la mère biologique. C'est comme si c'était inscrit au plus profond de nous-mêmes et que c'était en quelque sorte un appel irrépressible. Alors que la nature ou la biologie ne soit pas tout, nous sommes tout à fait d'accord pour le dire, et on sait bien que, vous savez, c'est le fameux débat entre nature et culture, on est presque autant enfant de ses parents par l'éducation que par la biologie, donc la biologie n'est pas tout, mais elle n'est pas rien non plus, et là on aurait tendance à considérer qu'elle n'est rien.
Est-ce que ce projet de loi contient tout de même des bonnes choses, ou est-ce qu'il est à rejeter en bloc?
Alors, on peut dire, je ne l'ai pas regardé à la virgule, il part d'une attention à répondre, un désir. Quand on cherche à répondre à des désirs qui ne peuvent pas s'exprimer, on part de quelque chose de positif. Donc il essaie de répondre à des souffrances rencontrées ou un souci d'égalité. De certains qui disent, mais alors pourquoi des couples auraient droit au prétexte qu'ils ont une stérilité considérée comme une sorte de handicap ou de blessure à la procréation médicalement assistée, et pourquoi d'autres couples n'y auraient pas droit. Donc il y a un certain nombre de tentatives de réponse à des souffrances, à un appel à plus de justice, mais après c'est la réponse qui est parfois problématique. Et juste une dernière chose, moi ce qui me préoccupe le plus, et je disais cela, il faut parfois se pencher aussi un peu sur la littérature, et je retrouvais ce poème de Peggy, un grand poème qui s'appelle Ève, dans lequel il dit, enfin Peggy met dans la bouche du Christ des paroles qu'il adresse à sa mère, il dit: vous pleurez longuement sur ce nouveau scandale, l'argent devenu maître à la place de Dieu. Tout se vend et s'achète et se livre et s'emporte. Rien ne se donne plus et moi j'ai tout donné. Je pense que ce qui est préoccupant, c'est que derrière tout cela, on sent bien aussi qu'il y a finalement cet impératif de la loi de l'offre et de la demande, cet impératif de marchandisation d'une société qui est quand même très préoccupant dans ce domaine et dans bien d'autres registres de la vie de notre société contemporaine.
Merci, merci beaucoup Monseigneur Echen. On aurait pu continuer, je pense, pendant au moins une dizaine de minutes, mais voilà, le temps de cette émission est fini. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Rencontre avec nos évêques.